Il nous reste à traiter la partie du corps qui fait une partie essentielle tout en étant accidentelle. Très curieux, le corps. Le corps n'est pas ma personne. Du moins, normalement. Et le corps est essentiel à ma personne. Et on prend tout de suite deux positions extrêmes qui nous font comprendre ça d'une façon très nette. Celui pour qui le corps et le développement du corps est la partie essentielle. Parce que ça se voit. Alors, on a une personne qui pèse tant. Pour le marché, c'est important. Le corps, la partie animale de la personne. Alors, ce n'est pas toute la personne. On tend aujourd'hui, et ça, il faut avoir l'intelligence ouverte à ça, on tend aujourd'hui à considérer le corps comme l'essentiel. On ne parle plus de l'âme. Par le fait même, le corps devient ce qui est essentiel, ce qui se voit, ce qui se juge, ce qui se mesure, ce que on peut concrètement découvrir la personne humaine concrètement par le corps. Et il y a cette tendance actuellement, puisque on ne veut plus la distinction âme et corps, puisque on ne veut plus la distinction âme et corps. Par le fait même, le corps prend tout. Alors, il faut se demander si on doit lutter contre cela en tant que philosophe pour sauvegarder la personne humaine. La personne humaine ne peut pas être égal au corps. Alors, on inventera quelque chose, on dira la partie de l'homme capable de penser. Au fond, on ne parlera plus de l'âme, mais on parlera des effets de l'âme. Sans vouloir parler de l'âme, ce qui se manifeste au plan spirituel, un idéal, l'amour, c'est très curieux, c'est un phénomène auquel on doit être très sensible à ça. Nous assistons depuis, on peut dire que depuis 50 ans, depuis 50 ans, on assiste à cette volonté très nette. Ceux qui ne la voient pas, ça prouve qu'ils sont un peu aveugles, de regarder l'homme sans voir la distinction âme et corps. Alors, par le fait même, l'âme ne se voyant pas, on la chasse. Et c'est le corps. Et dans le corps, c'est multiple. Alors, il y a la partie du corps qui est propre à l'homme, qui n'est pas animal. N'oubliez pas ce que la vieille scolastique disait. Le point de vue générique, le point de vue du genre, l'homme est un animal. C'est l'aspect générique du genre, animal. Donc, c'est un être corporel. L'animal, c'est l'être corporel. Quand on fait la philosophie du vivant, le point de vue du vivant, c'est justement le corps d'abord. Qu'est-ce qui est vivant en nous ? C'est notre corps. Ça se voit, ça. Et la source de cette vie, c'était l'âme. Si vous supprimez l'âme, vous ne parlez plus que du corps, et donc des manifestations. Où la manifestation de la vie humaine se manifeste le plus. C'est intéressant à se poser le problème, parce qu'on verra que c'est justement ce qu'on essaie de montrer pour supprimer distinction à mes corps. On ne regarde plus que les manifestations. C'est sûr qu'une philosophie qui est purement descriptive, qui ne recherche pas les causes, sera une philosophie qui va se contenter de la description de la manière d'être de l'homme. L'âme ne se voit pas, l'esprit ne se voit pas, donc uniquement les manifestations. Je ne vois l'homme que dans ses manifestations, toutes les manifestations. Je peux les décrire, c'est facile à faire. Mettez l'homme dans une cage et vous regardez toutes ces manifestations. Et vous décrivez toutes ces manifestations. Et voyez qu'il y a des manifestations qui sont évidemment au-delà du corps, mais qui s'incarnent dans le corps, la parole. Il y a multiples manières de parler. Et il n'y a pas que la parole, il y a toutes les décisions. Alors vous aboutirez au sommet de l'homme en voyant qu'il est capable d'aimer. Et vous verrez encore l'amour uniquement d'après les manifestations corporelles. Parce que c'est vrai, tout ce que je fais en tant qu'homme est incarné. Donc, peut se manifester. Y a-t-il en moi des activités qui ne s'incarnent pas? C'est important de se poser problème, puisque ceux qui nient l'âme, nécessairement, toutes les activités humaines se manifestent par le corps. Si vous découvrez des manifestations, des activités humaines qui ne se manifestent pas par le corps, vous devez donc distinguer ce qui se manifeste par le corps et ce qui ne se manifeste pas par le corps. Qu'est-ce qui ne se manifeste pas par le corps ? la pensée, l'amour, dans son jaillissement premier, et la pensée dans son jaillissement premier. Donc, suppression de l'âme, c'est-à-dire qu'on ne veut plus en parler, fait que, automatiquement, toutes les activités de l'homme qui ne sont pas incarnées, on n'en parle pas. Donc, il y a quand même des activités humaines visibles dont on ne parle pas. L'activité artistique, l'activité scientifique sont des manifestations qu'on ne peut pas expliquer par le corps. Alors, c'est important pour nous, puisque si on rejette le point de l'âme, il faut qu'on puisse montrer ces activités sont vraiment de l'homme, sont des activités humaines, et elles dépassent le point de vue de la manifestation corporelle. Elles ne s'expliquent pas par la manifestation corporelle. Elle s'explique s'il n'y a plus d'âme, on ne les explique pas, on les constate. C'est tout. Le corps ne peut pas être adéquat à toutes les manifestations de l'homme. Ça, je crois que c'est important de se poser la question aujourd'hui. Toutes les manifestations humaines, et parmi ces manifestations humaines, l'art prend une très grande place. Tous les arts, la science qui prend une place encore plus grande, les mathématiques. Ne sont pas expliqués par les manifestations corporelles. Donc, nous devons mettre ces activités très en lumière et dire d'où ça vient. D'où viennent ces activités? Nous disons, c'est l'âme, c'est l'esprit. Mais si je supprime l'âme et que je ne regarde plus que les activités sensorielles, que l'imagination, que tout ce qui est lié au corps, je n'expliquerai pas l'art, je n'expliquerai pas la science. Et à ce point de vue-là, le point de vue du langage universel et la saisie de l'universel est un point très important. Toujours, on a considéré que l'universel qui se manifeste dans la recherche scientifique, dans la recherche mathématique, est le signe qu'il y a autre chose que le corps. Le corps n'explique pas ça. Et ceux qui sont honnêtes sont obligés de reconnaître qu'il y a tout un domaine que l'expérimentation n'explique pas. Il y a quelque chose de plus que la manifestation. Mais scientifiquement, on ne l'explique pas. Pas d'interrogation. C'est tout. La science que l'homme réalise est un témoignage peut-être le plus éloquent de l'existence de l'âme. Vous voyez, c'est très important pour nous aujourd'hui de réfléchir là-dessus, de voir dans la vie humaine toutes les émergences qui se constatent et qui ne peuvent pas être expliquées par le point de vue simplement de la manifestation des choses visibles, corporelles. Il y a autre chose. Le langage. Le langage. On peut expliquer la voix, la manière dont on s'exprime, mais la signification des mots touche l'universel. Et donc, ne s'explique plus par le point de vue de la manifestation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a là un problème très important, le dépassement des activités humaines corporelles et en même temps voir que ces activités humaines corporelles sont évidemment les plus visibles et attirent le plus l'attention directe. Je suis un animal supérieur. Alors, je peux me contenter, si je suis uniquement dans la description, je peux me contenter de dire ça, je suis un animal supérieur. Mais si je veux expliquer philosophiquement en quoi je suis un animal supérieur, en quoi s'explique la signification des mots. Derrière, il y a la pensée. La pensée ne peut pas se ramener uniquement à la recherche de la cause matérielle, il y a quelque chose de plus. Alors, évidemment, sur quelque chose de plus, je peux très bien ne pas le voir, voir que je peux essayer d'apprendre aux animaux de parler. C'est très long, c'est très très long, mais on a quand même quelques petits résultats. Est-ce que c'est parler ou c'est simplement émettre des sons? Quand vous parlez, vous émettez un son. Mais émettre un son, est-ce que c'est la parole? Vous voyez, vous êtes obligé de préciser ce que avant on disait spontanément, mais oui, la parole est le signe de l'intelligence. Ah, aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Je dois revenir sur le fait, oui, la parole. Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans la parole ? Est-ce que les animaux parlent ? C'est un gros problème. Ils émettent des sons, ils émettent des cris. Mais le cri n'est pas la parole. Ou bien vous pouvez dire que le cri c'est une parole, mais une parole animale. C'est une parole animale, c'est-à-dire qu'elle relève d'une souffrance, d'une joie, qui peut s'expliquer corporellement. L'animal a faim, quand on lui apporte la nourriture, il est de bonne humeur. Ah. Le chien fait aller sa queue. Le chat aussi, pour exprimer qu'ils sont joyeux. Et on les écarte de ne pas manger tout de suite, mais ils ont faim. La faim d'une nourriture n'exprime rien du langage. C'est pas parce que vous exprimez que c'est une carotte ou une pomme de terre que ça vous donne faim. Non. Ça vous aide à manger. C'est sûr. Tandis que quand vous ne connaissez pas du tout ce qu'on vous sert, vous dites, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très curieux de voir ce passage, voyez, matériel. La cause matérielle existe. Hein. Dans toutes mes activités humaines, ma cause matérielle existe. Ce n'est pas parce que dans toutes mes activités humaines, la causalité matérielle existe, qu'il n'y a que cela. La cause matérielle existe. On l'a pas assez vue en scolastique, ça c'est vrai. Et on est obligé aujourd'hui d'être beaucoup plus attentif à la richesse très extraordinaire de la causalité matérielle. C'est la causalité matérielle qui explique mon corps. Et je la retrouve partout, dans toutes mes activités. Alors, autre chose est affirmée que cette causalité matérielle est présente dans toutes mes activités humaines, toutes mes activités humaines peuvent être regardées sous l'angle de la causalité matérielle. Autre chose, prétendre que la causalité matérielle explique tout. Vous voyez, on est obligé aujourd'hui de faire beaucoup plus d'attention. Donc, de regarder au corps humain une beaucoup plus grande attention, philosophiquement, qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. On doit comprendre que l'activité matérielle, le corps, est coextensible à toute ma vie. Toute ma vie humaine peut être vue sous cet aspect. Mon corps est toujours présent. Mais mon corps n'explique pas tout. Et je dois être très attentif aujourd'hui dans mes activités humaines à l'émergence, l'apparition de quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par la cause matérielle. La signification dans le langage. La signification universelle. Ça ne s'explique pas. L'amour. Vous expliquez les conséquences de l'amour, l'émotion particulière de l'amour, c'est très bien. Mais l'amour comme tel, vous ne l'expliquez pas par la cause matérielle. Vous voyez, se poser la question très loyalement, où y a-t-il émergence de quelque chose qui ne peut pas se ramener à la cause matérielle. Parce que l'étude du corps, c'est l'étude de la cause matérielle. La cause matérielle la plus développée, c'est le corps humain. Le corps des animaux, sur tel ou tel point, peut être plus développé que le corps humain, mais l'harmonie, l'ordre des différents aspects du sensible ne dépasse pas l'équilibre humain. Les animaux sont déséquilibrés comparativement à l'homme parce qu'ils mettent des pointes très curieuses et leur équilibre à eux n'est pas du tout le même. Donc, cette découverte de la causalité matérielle est très très importante aujourd'hui. Le corps, voir ce que cette cause matérielle a de propre. Qu'est-ce qu'il y a de propre dans ce que le corps apporte à ma vie humaine, ce que le corps me donne à la vie humaine. Et en même temps, comment mon corps limite mon activité humaine. Donc, il y a les deux aspects. Celui qui veut exalter uniquement le point de vue du corps, en montrant que la causalité matérielle explique tout. Vous voyez, la finalité demeure dans la cause matérielle et scientifiquement remplace la cause finale. C'est très, très étonnant de voir ça. Et c'est intéressant, du reste, à voir comment je suis très sensible au corps. C'est normal, puisque j'habite la causalité matérielle par mon corps. Je la connais. Et je la connais dans ce qu'elle a d'original, dans ce qu'elle a de tout à fait propre, par mon corps. Mon corps me fait comprendre combien je suis lié au monde physique, que le monde physique et mon corps, ça ne fait qu'un. Mais le monde physique n'explique pas mon corps. Alors vous voyez là, c'est tout le domaine des recherches scientifiques au point de vue des recherches des maladies. On a eu l'autre jour une conférence extrêmement intéressante à propos de la vache folle. C'est un jeune savant qui a un poste très important actuellement dans la recherche scientifique, qui n'est pas croyant, mais qui est respectueux et qui dit, si on fait de la science sérieusement, on est obligé d'accepter qu'il y a quelque chose au-delà de la science. Et c'est cela qui était très intéressant. Et au fond, ce qu'il m'a dit après, quand je l'ai vu seul, il m'a dit, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de parler à vos frères. Parce que je sais qu'eux, ils ont vu qu'il y avait quelque chose au-delà du corps. Quand je parle à des étudiants purement matérialistes, j'essaie de leur montrer. Ils ne comprennent pas toujours. Ils disent, c'est parce que la science n'est pas encore assez développée, mais le développement de la science arrivera à tout comprendre. Et ils veulent tout comprendre par le corps. Alors, c'est vrai que le corps fait une synthèse extraordinaire, merveilleuse, mais il n'explique pas tout. Alors, je crois que c'est un problème très actuel et qui est très important de voir les émergences, les dépassements de la cause matérielle qui ne peuvent pas s'expliquer par la cause matérielle. Donc, qui implique autre chose. Nous disons, nous, cause formelle, l'âme. Mais puisqu'on ne veut plus de l'âme, on veut tout ramener à la cause matérielle. Alors, c'est très important de saisir ces émergences. Voyez ? Et c'est là où la philosophie du corps devient très importante aujourd'hui. Voyez ? Alors, il montrait combien la vache enragée poser des problèmes extrêmement difficiles et des problèmes qu'il fallait essayer de résoudre. Donc, c'était quelqu'un, ce savant, n'a pas la foi, mais il me dit, moi ça m'intéresse beaucoup de parler à des gens qui ont la foi. Ça m'intéresse, parce que scientifiquement, on touche quelque chose qu'on n'explique pas. Oui. Alors, je crois que cette philosophie du corps intégrée dans la recherche de la personne est quelque chose de très, très actuel aujourd'hui et très important. Parce que la science, de fait, hélas, comme elle a perdu le sens de la finalité, a perdu le sens de quelque chose de spirituel. Et elle veut tout expliquer par la cause matérielle, le point de vue fondamental. Et le fondement, il veut tout expliquer. Parce que très souvent, la cause finale est cachée par la cause matérielle. Il y a comme un jeu très curieux entre les deux, entre la cause matérielle et la cause finale. Donc, on est là en face de quelque chose qui est très important aujourd'hui. Quelle est la place exacte du corps dans le développement de la personne? Alors, je peux dire tout de suite que sa place est une place essentielle. Je ne peux pas parler de la personne humaine sans faire une allusion, plus qu'une allusion, sans voir la place exacte du corps dans le développement de ma personne. Le développement de ma personne implique le point de vue du corps. C'est en ce sens-là que cette philosophie de la personne assume le devenir, assume la croissance par le point de vue du corps. Je deviens intelligent, je deviens artiste, je deviens une personne. C'est très curieux, la philosophie grecque a mis longtemps avant d'arriver à discerner être et devenir. Ça a été un très gros problème. Et la découverte de l'être à partir du devenir a été comme une libération de voir que le devenir, le mouvement, n'est pas l'être. Mais la vie ne peut pas mettre le devenir à côté. Il faut l'intégrer dans l'être par la vie. Mon être dépend de mon devenir. C'est très curieux. C'est contraire à la distinction être et devenir, où le devenir dépend de l'être. Le devenir ne s'explique que par l'être. Et je suis obligé, quand je regarde le point de vue de la vie, de regarder comment le devenir est intégré dans la dimension de ce qui est. C'est le propre du vivant. On pourrait dire que le vivant assume tout le devenir pour que ce devenir me soit donné dans ce qu'il est. Le vivant assume le devenir. Et le devenir, il est enraciné dans le corps. Et donc, cette étude du corps, au point de vue philosophique, est très importante parce qu'elle comprend justement la différence entre le devenir et l'être et comment la vie assume le devenir. Et comment la vie fait que le devenir est comme intégré dans l'être. Et d'une façon telle qu'au fond, facilement, les philosophes qui sont saisis par le point de vue de la vie ne voient plus la distinction entre être et devenir. y a là un problème qui est très important pour nous. Parce que la pensée humaine est une pensée qui se réalise dans un devenir. Je deviens intelligent. C'est très curieux qu'il y a un devenir de l'intelligence qui permet le développement même de l'intelligence. Donc, il y a le danger actuel qui fait que je ne distingue plus être et devenir par la vie. Et je demeure dans la synthèse des deux chez le vivant. Ça explique l'attrait extraordinaire de la phénoménologie. Étudier le devenir de l'intelligence, ce n'est pas l'étude de l'intelligence. C'est l'étude de devenir de l'intelligence. Et le devenir de l'intelligence n'est pas l'intelligence. Alors, vous voyez, il y a là quelque chose d'extrêmement important à saisir. Parce que je ne saisis pas Dieu par le devenir. Dieu n'est pas dans le devenir. Le devenir ne peut pas me manifester la présence d'un être premier. Le devenir demeure toujours dans un être second, dans un être relatif. Il y a donc quelque chose d'extrêmement important à saisir, c'est de voir comment la vie assume le devenir pour que ce devenir soit. Mais le devenir, en tant qu'il demeure toujours un devenir, ne peut pas me manifester ce qui est. Donc, il y a dans l'étude du corps quelque chose d'extrêmement important pour saisir comment je deviens une personne. Je deviens une personne parce que le devenir vital de mon intelligence, de ma volonté, fait partie essentielle de ma vie. Et ce devenir est dépendant du corps. Le corps est le principe du devenir. Je porte en moi ce devenir. Je porte en moi cette croissance. Croissance intellectuelle, croissance spirituelle. Et comme je porte en moi cette croissance, très facilement, si je ne fais pas grande attention, je confonds le devenir et l'être. Et je demeure alors, soi-disant, dans l'être, et en réalité, je suis dans le devenir. Et je ne peux pas découvrir ce qu'il y a de premier. Vous voyez, la réflexion de Thomas d'Aquin, en montrant que la première voie d'accès vers Dieu implique le sens du mouvement, le sens de la relativité donnée par le mouvement. Dieu n'est pas dans le mouvement, Dieu est au-delà du mouvement. Donc, il est au-delà de la vie telle que je l'expérimente. Parce que la vie telle que je l'expérimente implique toujours ce devenir. faut que j'arrive à découvrir comment la vie, dans ce qu'elle a d'original, n'est pas liée au devenir. Alors que pour moi, la vie est toujours liée au devenir, à la croissance. Croissance physique, croissance spirituelle. Donc, l'intérêt de l'étude du corps, c'est de saisir le point de départ en moi de l'intégration du devenir. Comment le devenir fait partie essentielle de ma personne. Le devenir ne fait pas partie essentielle de l'être, fait partie essentielle de ma personne. C'est là où je vois la différence entre l'être et la personne. C'est que la personne intègre le devenir par le point de vue de la vie. Donc, ce qu'il y a de tout à fait particulier à la personne humaine, c'est que la personne humaine intègre le devenir et la croissance. Je suis un être qui, dans sa personne, grandit. Et le jour où je supprime la croissance de mon être, je supprime ma personne. Et le phénomène de la vieillesse, c'est ça. C'est de faire que, de fait, le poids du devenir devient beaucoup plus fort, et alors, il n'est plus intégré. Et par le fait même qu'il est plus intégré, il est rejeté du point de vue de la personne. C'est pour ça que chez un vieillard, la personne ne grandit pas. Ou très lentement. Et on a la tentation de dire, elle ne peut pas grandir, elle ne grandit plus. Et alors à ce moment-là, la personne humaine n'existe plus. Je suis sur la perspective de regarder uniquement le passé. Je ne regarde plus le point de vue de l'avenir, du présent. Et on a, avec l'étude de la personne, avec l'étude, je veux dire, du corps dans la personne humaine, un lieu extraordinairement important pour comprendre ce qu'il y a d'original à la personne et comment le devenir peut être regardé sous le point de vue métaphysique.